que vous allez suivre est une rediffusion. RFI, grand reportage, Marie-Pierre Olfan.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, Grand Reportage s'intéresse au manga. Un peu plus d'une bande dessinée sur trois vendue en France est un manga. L'Hexagone est même le deuxième pays consommateur de manga après le Japon. La France, l'autre pays du manga, c'est un grand reportage de Sophie Torlotin, réalisation Pierre Chaffangeon.
Vous êtes dans un combini, un mini-marché tokyoïte aux vitres couvertes de personnages de manga. Le métro de la capitale japonaise passe et repasse, et pourtant, vous êtes à Paris. En décembre dernier, plus de 34 000 visiteurs ont profité du dépaysement promis par l'exposition Paris-Tokyo à la Grande Halle de la Villette, et surtout des jeunes fous de manga.
À la base, je lisais pas mal de manga quand j'étais petite, et après, quand j'ai eu un ordinateur, je regardais les animés. C'est vrai que c'est intéressant du coup de voir ça parce qu'ils ne maîtrisent pas l'animation comme nous. Au niveau des mouvements, il y a plein de choses super intéressantes.
C'est sûr que ce grand plan de Tokyo, là où on suit les déplacements des personnages, c'est vachement intéressant. Enfin, on a l'impression d'être à leur place, enfin, on découvre en même temps.
Ce qui m'a le plus marqué, c'est quand même la maquette géante de Tokyo. Après, ce qui m'a marqué le plus intellectuellement, c'est... toute l'histoire de l'iconographie et des dessins de japonais.
Yasmine, une Suédoise de 28 ans, de passage à Paris, n'aurait manqué cette exposition pour rien au monde.
J'aime regarder les animés et je rêve d'aller au Japon. Ici, j'ai trouvé vraiment cool la reconstitution d'un combini ou d'un train. J'ai appris beaucoup de choses, notamment sur les reconstructions successives de Tokyo. Je lis les mangas sur Internet car je ne peux pas acheter les livres, je n'en ai pas les moyens. Du coup, je regarde surtout les animés.
Les visiteurs, des vingtenaires ou trentenaires pour la plupart, ont grandi avec cette culture pop japonaise.
Actarus, je n'ai pas le pouvoir de changer ton destin, mais je t'en supplie, essaie de revenir vivant.
Renaud Lemaire, un dessinateur français de 38 ans, auteur du manga Dreamland, regardait enfant les programmes du Club Dorothée sur TF1.
Et maintenant, à moi de jouer.
On est d'une génération où moi, mon premier dessin, celui dont je me souviens, c'était Goldorak et j'avais 3 ans. Moi, à 3 ans, je recopiais ce que je voyais à la télé. Et à la télé, c'est vrai qu'à l'époque, on était abreuvé à beaucoup, beaucoup de dessins animés japonais. Donc forcément, mon style est clairement japonisant. Pas parce que j'ai décidé de faire du manga, mais parce que je suis de la génération Club Do, comme on dit.
C'est le moment. Adieu, Goldorak.
Dans les années 80, les émissions télévisées pour enfants commencent à diffuser massivement des dessins animés japonais. C'est sans doute ce qui explique en partie le succès éditorial des mangas en France. Patrick Honoré est traducteur et connaisseur des mangas. Il a notamment traduit les œuvres du grand maître Osamu Tezuka, rééditées chez Delcourt.
La France est un grand pays de bande dessinée. Hein. Même sans le manga, la France, c'est le pays de Pif le Chien, de Tintin. Avec toutes les différences que vous pouvez trouver entre la bande dessinée japonaise, la lecture de droite à gauche, etc., par rapport à la bande dessinée française ou occidentale, il y avait quand même des gens qui savaient lire de la bande dessinée. La deuxième raison, c'est que je pense que les premiers dessins animés japonais qui sont sortis à la télévision en France dans les années 80... Candy Candy, Albator, Goldorak, tout ça, ont eu énormément de succès, alors que personne ne savait que c'était japonais à l'époque.
Pour Bastien Vivès, auteur avec Balak et Michael Sans la Ville d'un manga à la française, Last Man, la découverte de ces mangas animés, c'est aussi une initiation exotique à des codes différents, notamment la violence et la sexualité.
D'avoir un manga qui, d'un coup, s'adresse aux gamins entre 14 et 18 ans, c'est étonnant en France, on n'a pas ça. Donc quand on a vu les dessins animés arriver, je pense à des séries comme, je sais pas, Ken le Survivant, des choses comme ça. Les Chevaliers Zodiac, c'est extrêmement violent et on a adoré ça, quoi. Et je pense parce qu'il y avait ce rapport de violence et de dessins animés. Et même un peu de sexe aussi, évidemment, avec le simple fait de dessiner des nanas avec de la poitrine, des choses comme ça. C'était des femmes, quoi, c'était plus des filles. C'est le manga qui a amené les femmes en dessin animé. Et pour eux, c'est tout à fait normal, quoi. Parce qu'ils savent exactement à qui ça s'adresse. Et nous, quand on avait ça, on disait, dessin animé, c'est pour enfants. Bam, on donne ça pour les enfants. C'est les meilleurs souvenirs de votre jeunesse. Si vous avez le droit d'accéder à quelque chose qui n'était pas du tout fait pour vous, quoi. C'est super, quoi.
Voilà pour les animés. L'arrivée du manga format papier en France remonte, lui, à 1989. L'éditeur Jacques Glénat découvre Akira en 1989 lors d'un voyage professionnel au Japon. Il pressent que cette œuvre plutôt adulte, qui se passe dans un Tokyo post-apocalyptique, publiée en grand format, pourrait intéresser des lecteurs français. Le succès critique est là, mais c'est vraiment 4 ans plus tard, avec la publication de Dragon Ball, que la vague manga déferle en France.
Hasard du calendrier, les droits de Dragon Ball ont été acquis à peu près en même temps que l'animé qui passait à la télévision, avait suscité l'engouement, mais n'était plus diffusé.
Benoît Huot, éditeur manga chez Glénat, le leader français du secteur.
Donc forcément, lorsque vous avez tout un public qui connaît la série et qui n'a plus, on va dire, sa dose télévisuelle d'histoire, lorsque vous lui proposez en librairie l'histoire, il se précipite dessus. Et là, c'était un réel engouement pour une raison relativement simple, c'est que lorsque Dragon Ball est sorti en France, il n'y avait pas de bande dessinée pour adolescents. Il y avait de la bande dessinée jeunesse. Il y avait de la bande dessinée adulte, mais il n'y avait pas de bande dessinée pour adolescents. Ou plus exactement, la bande dessinée pour adolescents qui était proposée, c'est la bande dessinée des super-héros, des comics, qui, à l'époque, n'était absolument pas aussi branchée qu'elle peut l'être maintenant. Donc, il y avait un lectorat, mais qui n'avait rien à se mettre sous la dent. Et le manga est arrivé en proposant des histoires donc thématiques concernant qui correspondaient à leurs attentes. En l'espèce, Dragon Ball est un shonen, avec un rythme de production, de publication important, puisqu'on était sur un tome tous les deux mois. Donc ça voulait dire que les adolescents qui avaient beaucoup de temps libre pouvaient justement avoir la suite de leur histoire assez rapidement et pas attendre un an comme c'était le cas d'une bande dessinée. Et avec une dose de lecture importante, puisqu'on était sur à peu près 200 pages, une bande dessinée c'était 48 pages. Alors évidemment, vous allez me dire, oui, mais le manga c'est en noir et blanc, c'est pas en couleur. Sauf qu'en fait, l'adolescent, lui, ce qu'il voulait, c'était sa dose de lecture. Il n'était pas forcément en quête d'un parti pris artistique ou esthétique, comme peuvent l'être certaines bandes dessinées. Ce qu'il voulait, c'était simplement, on va dire, ce que j'appelle un retour sur divertissement, c'est-à-dire qu'il voulait avoir son plaisir, sa satisfaction. Et lorsque Dragon Ball est arrivé, cela a comblé justement ce manque.
Tu ne manques pas de courage, Son Goku. Je t'admire. Boubou est trop fort pour moi, mais toi, tu as une chance de te battre. Ne la laisse pas filer.
Cette série pour jeunes adolescents, on parle de série shonen, plaît d'autant plus aux adolescents que les héros, et notamment Son Goku, vieillit et évolue avec eux. Dragon Ball reste à ce jour la série phare du catalogue Glénat, avec 42 tomes vendus à 20 millions d'exemplaires. Akira Toriyama a conçu une suite qui se vend également très bien. Le 6e tome de Dragon Ball Super paraîtra d'ailleurs dans quelques semaines. Benoît Huot.
Là où le gros de la production était concentré sur le shonen au départ, puisque c'était ce que les gens attendaient, et notamment, on va dire, une exploitation en manga des dessins animés. Ensuite, le lectorat a voulu autre chose. Donc, on est passé justement sur du shoujo, donc un lectorat pour les filles. Et ensuite, lorsque le lectorat a été plus âgé, on est passé sur du seinen. C'est-à-dire qu'en fait, les personnes qui ont grandi avec le manga ont assez rarement quitté le giron du manga. Elles lisent aussi autre chose, bien évidemment, mais c'est pas forcément un genre où on se dit « bon, ça y est, j'en ai fait le tour, je passe à autre chose ».
La machine est alors amorcée. Après Glénat, les grands éditeurs de bandes dessinées franco-belges lancent leur branche manga. Cette diversité et richesse éditoriale explique aussi le succès du manga en France par rapport aux autres pays européens. Kana, une filiale de Dargo, est créée en 1996. Sa série phare, Naruto, démarrée en 2002, compte 72 tomes. Christine Houlens se souvient qu'à l'époque de la création de Kana, le manga était encore mal vu. On parlait même de japoniaiserie pour qualifier les dessins animés télévisés.
À l'époque, c'était vraiment la chasse aux sorcières. Vous lisiez du manga, vous étiez un futur criminel et dyslexique puisque ça se lisait à l'envers. Donc c'était assez dramatique l'époque où on a lancé Kana. Et donc on voulait à tout prix arriver à montrer que le manga, ce n'était pas que cette idée qu'avaient les gens, pornographique, violent, mal dessiné, etc. Et qu'il y avait énormément de choses très très belles. C'était très diversifié, qu'il y avait pour des adultes, qu'il y avait pour les enfants, etc. Donc dès le démarrage, on avait cette idée-là à la base. Cependant, il fallait se lancer sur quelque chose, évidemment, pour que ce soit rentable et qu'on puisse élargir la proposition. Et à l'époque, il y avait assez peu de shonen. On était vraiment au tout début du marché du manga, donc tout était possible. Et nous, on a choisi d'éditer d'abord du shonen, effectivement. Et donc, c'est devenu finalement la base et le fondement de notre catalogue, puisqu'on a commencé avec des titres comme Senseiya, Les Chevaliers du Zodiaque, Conan, puis très vite Naruto, Yu-Gi-Oh, etc., qui sont tous des shonen.
Les shonen, ces récits d'aventures initiatiques destinés aux jeunes garçons, fixent aux yeux du grand public une esthétique manga, faite de combattants aux grands yeux et cheveux en pétard. Au Japon, c'est toute une industrie, du moins pour la trentaine de séries qui se taillent la part du lion et bénéficient d'une publication hebdomadaire dans un magazine, avant une parution reliée d'un tome tous les deux ou trois mois. L'an dernier, la série Fairy Tail avait droit à une exposition au Festival de la bande dessinée d'Angoulême qui avait convié son auteur Hiro Mashima. À 40 ans, Mashima est un mangaka reconnu. Il travaille en atelier, aidé par une ribambelle d'assistants. Mais pour pouvoir sortir des tomes tous les deux ou trois mois pendant des années, il faut s'enchaîner à sa table de travail. Voici sa semaine type.
Lorsque j'ai commencé Fairy Tail, je ne pensais pas m'engager dans une série de 63 tomes sur 10 ans. Je m'étais fixé 2 ans au départ. Ma semaine commence un lundi. C'est le jour où je rencontre mon responsable éditorial. Je discute avec lui du storyboard du chapitre à venir, puisque c'est une série hebdomadaire. Le mardi, je fais mes crayonnés, les ébauches du chapitre, une vingtaine de pages environ. Du mercredi au vendredi, je me consacre à l'ancrage des 20 pages et le samedi soir, j'ai terminé le chapitre. Et enfin, le dimanche, je réfléchis et réalise mon storyboard pour l'épisode de la semaine suivante. Storyboard que je montrerai le lendemain à mon responsable éditorial. Et c'est une routine que j'ai répétée un peu plus de 500 fois dans le cas de Fairy Tail.
Mashima est un mangaka star dont la production est représentative d'un mode de fonctionnement industriel de la bande dessinée japonaise, mais ce n'est qu'une petite partie du continent manga. Mis à part les codes de base, la lecture de droite à gauche, le noir et blanc et le plus souvent en petit format, compte tenu des exigences de la production en série, le manga est beaucoup plus divers, esthétiquement, graphiquement, thématiquement. Patrick Honoré.
Il y a autant de variétés dans la bande dessinée japonaise qu'il y en a dans la bande dessinée française. Dans la bande dessinée française, il y a quoi ? Il y a des gros nez, il y a Astérix, il y a des trucs comiques, il y a de l'aventure, il y a de la science-fiction, il y a des dessins réalistes, paristes. Ben, en manga, on a exactement la même chose. Bon. Évidemment, le marché japonais étant si important, étant si... énorme, c'est assez cloisonné et tel type d'histoire et tel type de dessin s'adresse pas nécessairement à tous les publics.
Au Japon, vous avez des mangas pour les petits garçons, pour les petites filles, pour les collégiens, pour les collégiennes, pour les lycéens, pour les lycéennes, pour les étudiants, pour les étudiantes.
Grégoire Hello, directeur de Kurokawa, une maison d'édition dédiée au manga, créée en 2005, et détentrice des droits français de One Punch Man, plus d'un million d'exemplaires vendus.
Après, vous allez avoir les mangas pour les hommes de 20, 30, 40, 50 ans, c'est-à-dire toutes les tranches de 10 ans, on va changer. Et pour les femmes, vous allez avoir les mangas pour les femmes de 10, 20, 30 ans, et pour les femmes au foyer, pour les femmes actives. Voilà, la sectorisation est absolument incroyable, et comme il y a un manga pour chaque public, vous allez avoir des mangas de sport, des mangas de gestion d'hôtel, des mangas de cuisine, des mangas de golf, des mangas sur la Formule 1, n'importe quoi. Nous, il y a 2 ans, on a sorti un manga sur les hémorroïdes qui était préfacé par Marina Carrère-Dancos et qui a eu un chouette succès critique. Donc vous voyez, il existe vraiment un manga sur n'importe quoi. Vous pouvez me dire une activité au pif, il y a de grandes chances pour qu'un manga existe.
C'est possible en manga. Raconter la vie de Vincent Van Gogh, le premier tome d'une série manga paraîtra d'ailleurs en mars, ou bien une autobiographie d'une auteure atteinte d'un cancer de l'utérus. Les dizaines de maisons d'édition françaises doivent désormais se battre pour acquérir les droits des séries japonaises repérées dès le premier stade de la publication dans les magazines. L'enjeu ? Trouver la série du moment. Pour Christine Houlens de Cana, c'est d'autant plus vital que peu de séries arrivent à s'imposer au patrimoine. Elle espère que Naruto atteindra ce statut.
C'est un des piliers fondateurs du marché du manga. Donc aujourd'hui, c'est toujours notre best-seller, même si forcément, avec le temps, ça va diminuer puisque la série est finie. Avec cette particularité du marché manga, à la différence de la bande dessinée, c'est qu'une série en cours recrute, une série qui s'arrête meurt. Donc il y a très très peu de classiques en manga. On espère que Naruto en sera un. Sinon vous avez Dragon Ball par exemple chez Glénat qui est un vrai classique qui est arrêté depuis très longtemps et qui continue à avoir sa place dans le top 10. Chez nous, ce sera le cas de Death Note, qui est une autre série. Et on espère, Naruto sera un grand classique. Pas simple de faire un grand classique avec 72 tomes au compteur, évidemment.
Du coup, les éditeurs commencent à investir un nouveau territoire, les mangas français. On les appelle manfra, ou pour reprendre la terminologie de Benoît Huot de Glénat, manga de création.
Lorsque vous avez un adolescent qui a 10 euros d'argent de poche et qu'un manga coûte à peu près 7 euros, quand il va en librairie pour acheter son livre, il se dit pas si c'est un auteur français, c'est un auteur japonais. Ce qu'il se dit, c'est voilà, j'ai mes sous à dépenser et ce que je veux, c'est que le livre que je vais lire me divertisse, me fournisse de l'évasion, etc. Donc, il a fallu attendre un certain temps que les auteurs, on va dire, matures en termes de création, en termes de réflexion, intègrent réellement ce qu'étaient les codes du manga. Il faut un certain style de narration, il faut des thèmes, il faut des mises en scène particulières, mais c'est surtout une question d'esthétique. Alors par esthétique, ça ne veut pas forcément dire que tous les personnages doivent avoir des grands yeux, être filiformes, etc. C'est plus une question, on va dire, de narration. On n'est pas dans un principe, on va dire, de gaufrier où on a des cases rectangulaires qui se suivent. On a vraiment des cases qui sont un petit peu dans tous les sens, mais dans le même temps, ce qu'on a constaté aussi, c'est que très souvent, des gens mettent des cases dans tous les sens en disant comme ça, ça fait manga. Sauf qu'en fait, non. Au Japon, si les auteurs de manga mettent des cases éclatées qui brisent la narration, c'est parce qu'ils cherchent un intérêt, un effet, pour que, en fait, la fluidité et l'expérience de lecture soient la meilleure possible. Donc, en fait, c'est toute une maîtrise à laquelle doivent parvenir les auteurs de manga de création, avec notamment ces mises en scène, des doubles pages et des ruptures de cases, pour faire en sorte que la lecture soit fluide. Parce que le premier élément, en fait, que cherche à atteindre un auteur de manga, c'est tout simple. C'est l'émotion.
Le jour, Terence est un jeune lycéen timide et maladroit.
Renaud Lemaire, à 38 ans, bercé au manga dans son enfance, s'est lancé il y a 10 ans dans l'aventure Dreamland, aidé par son cousin Romain, désormais lui aussi auteur de la série Everdark, et d'un ami. Désormais, Renaud Lemaire travaille seul chez lui, tout juste aidé par sa femme, pour sortir un tome par an de sa série.
Dreamland, en librairie.
J'ai pas fait Dreamland avec des héros français et montpelliérains juste pour dire ben ça y est, je suis un auteur de manga français, mais parce que je raconte mes trucs en France. Franchement, j'aurais eu une idée de faire un truc sur les sorciers ou comme Romain d'Everdark, un monde à part. J'aurais écrit ma série comme ça, sauf que là, comme j'allais décider de raconter une histoire qui se passe dans les rêves, mais que la nuit, il fallait que je raconte la journée de mes héros. Et comme je voulais ancrer le récit dans une vraie réalité, avec des vrais questionnements, mes héros, ils ont 18 ans. Terence a 18 ans, ils sont en terminale. C'est pas pour rien que j'ai choisi cet âge aussi. C'est pas les héros de shonen classiques comme au Japon, où on a tendance à faire que le héros a 14, 15 ans pour s'adresser au plus grand public. J'ai réfléchi à ce qu'était un petit de 14 ans et un petit de 18 ans, et on peut pas demander à un petit de 14 ans de sauver le monde ou d'avoir des réflexions d'un mec de 25 ans. Donc j'ai choisi vraiment d'ancrer mes persos dans la réalité. Donc les héros ont 18 ans, ils se posent les questions qu'ont les petits de 18 ans, et donc forcément, j'ai dessiné les décors réalistes que j'avais sous les yeux.
Dreamland sera-t-il un jour disponible au Japon ? Ce serait un rêve, justement. Rares sont les mangakas français à toucher ce Graal. Tony Valente avec Radiant, adapté en animé. Et Bastien Vivès, qui, avec Balak et Michael sans la ville, savoure l'adaptation japonaise de sa série Last Man.
Il fallait que ça sorte là-bas, pour que ça puisse débloquer un peu tout le reste, quoi. Que, en fait, que ça y est, on est plus ce complexe de du petit français... À partir de ce moment-là, au moment où c'est sorti, on a eu les séries animées, on a eu plein de choses. Enfin, ça n'a pas découlé de ça, mais psychologiquement, on n'était pas des imposteurs, quoi.
Les Français, deuxième consommateur de manga au monde après le Japon, vont-ils réussir à percer à leur tour le marché nippon ? On en est encore loin. Les éditeurs français hésitent à débourser 15 000 euros pour un tome d'un manga de création, quand on peut acheter les droits d'un manga japonais 3 000 euros. Mais la curiosité existe désormais pour ces mangas made in France, en attendant que toute une structure d'atelier à la japonaise avec division des tâches entre dessinateurs se mette en place. La France, l'autre pays du manga, un grand reportage présenté par Sophie Torlotin avec Clément Bilardello, à la réalisation Pierre Chaffanjon.